Cette semaine, Sur les docks passe par Gaza et Paris. Jeudi, Michel Pomarède revient sur la mort de ce migrant retrouvé à l'aéroport de Roissy dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie camerounaise Camerco en 2013. Ensuite, Catherine Escrive interroge le sens du secret. Mercredi, secret dans la justice et particulièrement lors du procès des époux Fourniret en 2008 devant la cour d'assises des Ardennes à Charleville-Mézières. Mardi, il s'agira d'interroger comment contrer le pillage de fichiers, le vol de données, bref, le cybercrime.
Et aujourd'hui, il sera question de l'amitié entre Christian Essel et Amir Hassan.
Oui, c'est une amitié née peu après ce qu'on appelle l'opération Plomb durci, une action lancée le 27 décembre 2008 par Tsahal, les forces de défense d'Israël, pour détruire les infrastructures et les rampes de lancement de roquettes du Hamas. Peu après, le diplomate Stéphane Essel s'était rendu à Gaza avec sa femme, Christiane Essel Chabri.
Ici, c'est Gaza.
Ici, c'est Gaza.
Ici, c'est Gaza.
Ici, ici, c'est Gaza.
C'est Gaza.
Ici,
ici,
c'est Gaza.
C'est Gaza.
Gaza, c'est en juin 2009, c'est-à-dire quelques mois après l'opération Plomb durci. Nous arrivons à Eretz, nous étions quatre, et le seul, toi et moi, sans explication, sont admis à entrer, et nos deux amis sont refoulés. Nous sommes actuellement dans un centre d'éducation par le jeu d'une association palestinienne pour enfants de Gaza. Et nous trouvons des enfants très traumatisés, très mal en point. Et ce centre avait pour mission essentielle d'essayer d'apaiser psychiquement ces enfants qui vivent dans une terreur permanente. Dès qu'ils entendent un avion, ils sont complètement désemparés.
Dans la tête, c'est l'intelligence. Et dans le cœur, c'est le courage. Et demain, c'est la liberté. Bravo.
Merci.
Christian Essel et Amir Hassan. Portrait croisé. Un documentaire de Jean-Christophe Frèche et François Perrache, réalisé par Anna Smuk.
Moi, je me souviens très bien de la première rencontre avec Amir Hassan. C'était en 2010, après l'opération Plomb durci. Stéphane, mon mari et moi, nous sommes allés d'ailleurs avec Régis Debré et une amie qui est présidente de la Voix de l'Enfant, à Gaza. Et c'est là d'ailleurs que nous avons pu constater les ravages de Plomb durci. Il y a eu une soirée
L'Institut français.
Au centre, oui.
Au centre culturel français.
Oui, centre culturel. Et c'est là que nous avons rencontré Amir, qui n'avait que 18 ans à l'époque.
Et j'ai rencontré Christiane Essel donc, à cette soirée, qui était une sorte de débat organisé par l'Institut culturel français à Gaza. Donc c'était un débat politique sur la situation à Gaza, parce que c'était juste après la guerre. Et je les ai revus aussi à Gaza, je pense 2 jours après, dans une fête, toujours organisée par le consulat de France, qui est la fête de la science. C'était dans un centre pour les enfants à Gaza, une grande fondation qui s'appelle Katan.
C'était une soirée magique.
C'est vrai.
Parce qu'un Palestinien des États-Unis avait apporté des télescopes. Et donc, on pouvait voir Jupiter en grand, etc. Et pour ces enfants qui ne sont jamais sortis de Gaza, c'était une espèce d'émerveillement. Ils rejoignaient ce que le monde entier peut voir, c'est-à-dire le ciel.
Tout à fait.
Le même ciel pour tous. Et je veux dire qu'on a passé une soirée vraiment exceptionnelle avec ces familles qui étaient dans le bonheur. Il y avait un petit jardin dans ce centre, et qui était un havre de paix.
C'est vrai.
Et on était heureux de s'y retrouver le soir par les belles soirées chaudes de Gaza. Et il y avait une atmosphère euphorique dans ce jardin.
C'est un lieu unique à Gaza parce que le jardin est très, très, très beau. À Gaza, il n'y a pas beaucoup de jardins.
Oui.
Et les gens qui se trouvaient là-bas avaient toujours une ouverture vers l'extérieur parce que c'était un centre culturel étranger. Donc, c'était le seul d'ailleurs à Gaza.
Oui.
Et cette soirée est magnifique parce que Stéphane Hessel est venu après le débat vers nous, les jeunes. On était 4 jeunes francophones qui commençaient à apprendre le français. Et il nous a dit, écoutez, je ne suis pas du tout content de la conclusion du débat. Parce que il voulait dire encore un mot vers la fin sur l'espoir et comment faire, comment trouver. Parce qu'on a parlé des choses assez dramatiques, parce que la politique en Palestine est très dramatique. Et lui, il voulait pas finir là-dessus. Il voulait dire encore comment s'en sortir. Voilà.
Je veux dire que nous avions été épatés par le niveau de français de ces jeunes qui n'étaient jamais sortis de Gaza. Et ça, je dois dire que nous avait beaucoup impressionnés, déjà à l'époque. Je dirais deux mots sur Gaza. Gaza a pris mon cœur. C'est une ville qui n'est pas belle, on ne veut pas dire que ce soit beau,
ça
Gaza.
Ça se discute.
Et surtout à cette époque-là, où il y avait beaucoup de destruction. Mais d'abord, il y a ces 40 kilomètres de côte et de plages qui sont pratiquement inutilisées. Mais les gens de Gaza, le drame qu'ils vivent, cet enfermement qui est unique au monde, je crois, ça nous avait pris le cœur.
L'idée nous est venue sur l'autoroute. En arrivant à Porte d'Orléans, on s'est regardé. Et on s'est dit, il faut le faire.
On avait fait tout le trajet assis à l'arrière du minibus.
Quand on est comédien, on passe beaucoup de temps dans les transports.
On rentrait d'Amiens, où on venait à l'occasion d'une rencontre organisée par une association locale de faire une lecture de nouvelles écrites par des jeunes palestiniens.
Assis devant nous, Amir et Christiane rigolaient comme deux vieux copains.
Tous les deux avaient aussi participé à cette rencontre. Elle, la femme engagée qui a longtemps partagé les combats de son illustre mari.
Et lui, le jeune auteur palestinien, venu raconter sa vie à Gaza, comme il le fait des dizaines de fois par an.
Leur complicité nous a touchés.
Tu veux commencer ? Non ? Alors moi, je dirais que j'ai vraiment connu Amir depuis qu'il est en France. Et d'ailleurs, tardivement, nous nous connaissons depuis un an, pas un an.
On s'est revus en France en juin 2014. Oui, parce qu'en 2014, en juillet, c'était encore la guerre. Et nous, on s'est vus avant la guerre pour un débat sur Gaza.
Et c'est là vraiment que je l'ai découvert. Je dois dire que j'ai à la fois une très grande admiration pour lui. C'est un très jeune qui m'impressionne beaucoup. D'abord sa culture, son sens de la poésie, sa maîtrise de la langue française qui m'époustoufle. Et puis humainement, je crois que j'ai appris à le connaître et à l'aimer. Vraiment, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Il est très jeune, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, comme une grand-mère peut en avoir.
Et moi, j'ai revu Christiane en France. Et on s'est vu parce que on organisait un débat sur Gaza. Et à l'époque, j'avais trouvé par hasard un livre sur Internet qui parlait de Gaza. Donc je l'ai acheté. Et j'ai vu que ce livre parlait vraiment de la vision que j'ai de Gaza. Et c'est le livre de Christiane, Gaza, j'écris ton nom. Donc on l'a contacté pour le débat et elle a accepté de venir. Et donc on était ensemble à la tribune, on a parlé de Gaza. Donc c'est rare les gens qui sont allés à Gaza, donc ça capte toujours l'attention du public. Et elle a une manière de parler de Gaza qui n'est pas tragique. Et je me suis tout de suite attaché à elle parce que je lui dis souvent qu'elle a une vision du monde qui est très intéressante. Et on est devenus vraiment des amis.
Nous avons notamment une complicité cinématographique. Nous aimons aller au cinéma ensemble. Et on se voit souvent.
C'est vrai.
On a fait des petits séjours. Alors, on a fait quand même notamment un séjour dans les Cévennes. Nous avons, Stéphane et moi, des amis qui sont des bergers des Cévennes et qui, pendant 20 ans, faisaient des transhumances sur le mont Aigoual et qui nous invitaient chaque année à accompagner ces transhumances avec Stéphane. Et j'ai pris avec moi Amir et nous sommes allés ensemble rencontrer nos bergers.
C'est une expérience nouvelle pour moi parce qu'à Gaza, on n'a pas du tout le monde de la campagne, on ne voit pas du tout les champs,
oui,
pas de champs,
ou
même les chèvres, on ne les voit pas. Et ce qui était intéressant, c'est de rencontrer les amis de Stéphane et de Christian, parce qu'ils ont des amis exceptionnels aussi. Et moi, ce qui m'a plu dans cette expérience, c'est que je dis souvent à Christian, parce qu'il me dit, il faut que tu vois des jeunes. Et je lui dis qu'elle me donne quelque chose que aujourd'hui, je peux plus avoir, c'est le voyage dans le passé. Et que l'avenir, je pourrais le connaître. Mais le passé, ça vient toujours à travers elle, qui est une enfant de la guerre. Donc, comme moi, donc, quand on a vécu la guerre, et on a peut-être une autre vision du monde actuel. Et c'est ça ce qui peut-être nous relie de cette manière très, très forte.
Oui, qui relie ces deux générations.
Oui. Les gens qui ont aujourd'hui 50 ans et 60 ans, j'ai l'impression parfois qu'on ne vient pas de la même planète. Alors qu'avec Christiane, c'est drôle, comme si on a eu la même enfance et comme si on se connaissait depuis longtemps, parce qu'on a peut-être vécu des choses qui se ressemblent.
Oui, c'est peut-être ça, entre autres.
Peut-être.
Mais j'admire aussi le fait que Amir soit un poète et un bon poète. Et je crois que c'est extrêmement qu'on a besoin, notre monde a plus que jamais besoin de poésie. Et c'est très important. Et mon souhait, c'est qu'il arrive à poursuivre son œuvre poétique. Parce qu'il a beaucoup de talent. Il écrit des poèmes dans les deux langues, d'ailleurs, je crois. Hein, c'est ça.
C'est ça.
Et donc, c'est quand même très exceptionnel aussi.
Ici, c'est Gaza, une grande ville malgré tout. Ici, il n'y a pas que les habitants. Ici, il y a le sable sacré et les épices rares dans les grands marchés du vendredi. Ici, tout est émotion. Même les trottoirs ont envie de t'arrêter pour te raconter des histoires de guerre ou d'aventure. Ici, même les murs ont envie de te prendre la main pour un instant ou un siècle d'amour.
Je m'appelle Yann Dimé, je suis écrivain et je suis aussi prof de yoga et je donne des ateliers d'écriture. D'abord, Amir, c'est un prince. Parce que Amir, ça veut dire prince, mais c'est un prince. Et vraiment, je le connais maintenant depuis longtemps, je l'ai rencontré à Gaza, c'était un de mes étudiants. Et c'était un petit jeune homme de 18 ans et demi et... Franchement, il rayonnait. La chose étonnante, c'est quand on lit d'autres textes de Gazaoui, c'est toujours une plainte. Et je comprends. Et moi, ça me touche beaucoup. Lui, jamais. Lui ne se plaint pas. Lui, il exulte le bonheur d'être Gazaoui. Il dit, bien sûr, il y a la guerre. Bien sûr, c'est affreux. C'est injuste. Mais il y a les fleurs. Mais il y a ça à Gaza. Mais l'odeur du pain. Et c'est vrai. Les gens sont heureux, les gens font des enfants. Donc la vie est là, l'espoir est là. On échange des chansons, il y a des gens qui font de la musique. Faut pas croire, je veux dire, Gaza vit, malgré les bombardements, malgré le blocus, malgré les difficultés. Et c'est ça qu'ils chantent. Ici, c'est Gaza. Ici, les arbres, quand ils se fâchent contre la mairie, font la grève. Ici, le centre-ville a réussi à réconcilier la mosquée avec l'église. Ils sont mitoyens. Leurs murs sont collés. Ici, les boulangeries restent ouvertes jusqu'à 3 heures du matin. Les pâtisseries orientales ont le parfum des vieilles villes de Jérusalem et de Naplouse. Chaque boucher fait voyager à travers le temps. Ici, les gens sont une leçon de vie et d'espoir. Tout le monde te serre la main quand on te voit. Même la police. Écriture en liberté, en Palestine, a démarré il y a maintenant presque 7 ans, en 2010, sur une idée qui a été partagée avec Chantal Juge, qui était la responsable de la linguistique au consulat français de Jérusalem. J'avais fait un tour à Jérusalem et en Israël, parce que j'avais l'intention d'écrire un roman sur Israël et la Palestine. Et en revenant de la Palestine, à l'issue de mon tour, je suis allée au consulat leur proposer de faire quelque chose. Et comme je ne sais rien faire d'autre que écrire et enseigner, je leur ai proposé ça. Et elle a tout de suite réagi et elle m'a dit « on pourrait faire des ateliers d'écriture dans les universités ». Et quand elle a dit « Gaza », j'ai dit « banco » tout de suite.
Quand elle a créé « Écriture en liberté », j'ai trouvé que c'était un peu gonflé.
Dany Toubiana, metteur en scène.
Parce que je lui ai dit « mais qu'est-ce que tu vas faire en Palestine ?» Elle m'a dit « écoute, il y a un conflit, je ne comprends pas ce qui se passe, ben voilà, j'ai envie d'aller y voir et je vais y voir quelque chose, je voudrais comprendre ». Et elle m'a dit « donc je vais faire écrire des nouvelles à des étudiants des universités d'Hébron, Ramallah et Naplouse ». Et je vais les ramener en France et puis je verrai, peut-être quand je vais les présenter à un concours, je vais réunir certains de mes amis qui sont écrivains et qui vont pouvoir être le jury de ces nouvelles. Et les auteurs de ces meilleures nouvelles viendront à Paris pendant une semaine.
Il fallait qu'ils aient un cadeau. Et le cadeau, il est venu dans mon esprit, c'était les inviter à Paris pour qu'ils voient enfin cette ville et la France dont ils apprennent la langue.
Quand j'ai atterri à Paris, donc c'était la première fois que je prenais l'avion et voilà que je sors de Gaza. Il y avait deux filles qui nous accueillaient à l'aéroport. On était trois garçons de Gaza. Et nous, en Palestine, on ne serre pas la main aux femmes. On est très conservateurs, surtout à Gaza. Et donc moi, j'ai vu les deux filles qui nous attendaient. Donc je me suis arrêté un peu avant pour dire bonjour. Et l'une des filles m'a embrassé, m'a pris dans ses bras. Et ça, c'était pour moi, je suis resté sous le choc pendant deux jours parce que c'était la première fois qu'une femme m'embrasse, une femme que je ne connais pas. Et je me suis dit, ça commence mal. Et les premiers jours, après j'ai pris le train, je suis allé à Perpignan. Et c'était un monde qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel je vivais à Gaza. Que ce soit la nature, parce qu'à Gaza il n'y a pas de nature, on ne voit pas les arbres, on ne voit pas les champs, on ne voit pas les animaux. Tout était différent. J'avais l'impression de faire le voyage de ma vie et je ne réalisais pas. C'est-à-dire pendant deux semaines, j'avais l'impression que je rêvais, que vraiment que j'étais dans une série américaine ou quelque chose comme ça.
Il aime vraiment la France, quoi. Et je me suis même dit, mais j'ai peur qu'il soit déçu. Tellement il avait ce rêve de la France et tellement il a possédé en lui. Et la langue, et les poètes, et les chanteurs. Il chantait les chansons de Brassens, de Trenet. C'était incroyable. Et surtout, il connaissait parce qu'il avait revu et revu plusieurs fois des films qui montrait Paris. Faut le faire, ça, quand même.
C'était vraiment le plus beau voyage dans ma vie. Et même, je parlais très mal le français, parce que j'avais fait un an et demi de français avant de venir pour mon stage en France. Et malgré ça, j'ai su m'entendre avec les gens. Et les gens qui m'accueillaient, ils m'ont raconté des histoires personnelles, leur expérience de vie, des histoires de mariage, de divorce et tout. Ils m'ont ouvert le cœur. Et je me suis dit que le courant est passé malgré mon français qui était un peu difficile à comprendre à l'époque. Mais avec des mots simples, on peut transmettre des émotions très très fortes. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai échangé quelque chose que peut-être j'ai pas pu échanger à Gaza. J'en sais pas pourquoi.
Dans les situations compliquées, les gens ont des choses à dire. Il faut leur donner la parole. C'est Camus qui dit ça. Il dit que la littérature, c'est donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et ils ne l'ont pas, les Palestiniens, ou tellement peu. Donc c'est une toute petite chose que j'ai fait. J'ai publié un livre comme ça, 6 livres comme ça. Ça, c'est le florilège. Et Côte Palestine, florilège. Mais c'est 60 nouvelles. C'est des jeunes qui ont pu s'exprimer. C'est porter un regard sur ce qu'ils disent.
Je me suis attaché à la France en 3 semaines. J'ai eu des amis en 3 semaines à qui j'ai été très attaché. J'ai une relation très affective avec la terre de la France. Je me suis senti bien sur cette terre. Et après, quand je suis parti en vacances en Espagne, j'ai eu un attachement à l'Espagne. Après, à l'Italie. Après, je me suis dit, on vit tous sur la même terre. Parce que partout, il y a quelque chose qui nous ressemble.
كفاني أظل بحضنها كفاني أموت على أرضها وأدفن فيها وتحت ثراها أذوب وأفنى وأبعث عشبا على أرضها وأبعث زهرة تعيث بها كف طفل نمته بلادي كفاني أظل بحضن بلادي ترابا وعشبا وزهرة.
C'est une poétesse palestinienne. Elle s'appelle Fadwa Toukan. Elle dédie son âme à la terre. Elle dit que la plus grande chose que je peux faire, c'est d'être enterrée dans mon pays. Donc je trouve que c'est très beau. Son corps va se mélanger avec le sable de ce pays qu'elle aime.
Cet été, nous sommes... C'était l'été, je crois.
C'était l'été, oui.
Oui, nous sommes allés... Nous sommes allés près du lac de Salagou, mais plus précisément dans une ville où tu récitais de la poésie.
À l'Odev, au festival de l'Odev.
Oui, à l'Odev. Et donc, on s'est retrouvés à cette occasion là-bas, dans le midi. Et ça a été aussi, ce sont de beaux moments de poésie pure. C'était des rencontres poétiques avec d'autres poètes.
Ah, tout à fait.
Et tu as récité... en arabe et en français de ta poésie.
Ce qui est bien avec Christian, c'est que moi, j'ai du mal parfois, quand on part avec des gens, peut-être je suis compliqué, comme j'aime pas les gens qui fument, j'aime pas le foot, donc avec ma génération, c'est toujours très compliqué. Avec elle, je pense que nous détestons les mêmes choses, donc on s'entend bien. Et voilà, elle a une sérénité très, très importante pour moi. La conversation est toujours intéressante, surtout que c'est une femme qui a fait le tour du monde. Hein. Elle a travaillé à Air France,
hein, oui.
Et donc elle a fait le tour du monde. Et donc c'est passionnant de lui poser des questions parce qu'elle a toujours une expérience. Et moi, je suis très attiré par le passé, donc ça m'intéresse tout ce qu'elle dit et sa vision d'aujourd'hui, ses combats pour politique ou pour l'écologie. Et c'est très rare, les gens aujourd'hui, à son âge, qui ont ce combat et ce vécu, et qui continuent aussi.
Moi, très, très honnêtement, je n'ai pas été très engagé personnellement. C'est-à-dire que j'ai partagé les engagements de Stéphane, beaucoup. Il était vraiment le leader dans tout ça. J'ai eu peut-être une petite influence concernant la Palestine, parce que j'ai été tellement bouleversée par l'injustice à l'égard de ce peuple. Moi, vous savez, je suis donc de la génération de la guerre. Quand Israël a été créé, j'ai applaudi, nous étions enthousiastes de la création d'Israël, sans très bien savoir dans quelles conditions ça se passait. Parce qu'on nous disait, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, n'est-ce pas? Donc, on croyait que c'était le désert et qu'ils allaient fleurir le désert. C'était l'image que nous avions de la conquête d'Israël. Et évidemment, on a vécu très longtemps avec cette image. Moi, je suis allée dans les années 60 en Israël, chez des amis intimes, et j'avais du plaisir à y aller. C'était un pays en plein essor qui était socialiste à l'époque, qui était, où il y avait encore beaucoup de ma génération qui maintenant a disparu. Enfin, il y a quelques survivants, notamment de l'époque de la guerre, ils sont peu nombreux, c'est une population très jeune maintenant, et c'est un pays que je trouve très décevant maintenant. C'est-à-dire que c'est un pays qui a beaucoup changé. Je ne retrouve plus ces valeurs d'autrefois. Il y a quelques Israéliens que j'aime et qui sont mes amis, qui sont des gens qui luttent pour la paix, pour la justice. Ils sont très courageux parce qu'ils sont mal considérés dans leur pays. Des gens comme Warshavsky, comme Norit Peled, qui est la fille du général Peled, qui a conquis les terres d'Israël, qui a été le vainqueur de 1967, hein, mais qui a tout à fait compris que ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, moi, j'ai des opinions assez ferme là-dessus. Mais voilà, moi j'ai appris à rencontrer des Palestiniens, à comprendre un tout petit peu leur drame et à partager. Ça a été notre engagement. C'est sur des faits, c'est sur des valeurs qu'on s'est attaché à ce pays, à cette population. Parce qu'on ne peut pas parler de pays, hélas. Oui.
Ce qui est dramatique, c'est que nous militons pour un pays qui est en train de disparaître. C'est avec ce sentiment-là que nous abordons cette question, parce que la Palestine est réellement en train de disparaître avec la colonisation. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment comment on va s'en sortir. Et ça, c'est très triste. C'est pour ça qu'on parle de la population palestinienne. Comme le pays réellement n'existe pas. La Palestine n'est pas reconnue internationalement. C'est pas un État.
Oui, oui. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est une lente colonisation, mais qui gagne du terrain d'année en année. Nous sommes la génération qui a haï l'occupation et haï la colonisation, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle soit. Donc, on ne peut pas être en accord avec ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas possible, sur le plan des principes les plus élémentaires. Et l'ONU disait il n'y a pas longtemps, et le cri sur les toits, mais ça n'intéresse personne, que dans 5 ans, Gaza ne sera plus habitable. Parce que d'abord, il n'y a presque plus d'eau potable, que l'électricité est au compte-gouttes, donc l'activité est très difficile, qu'ils n'ont pas les moyens de reconstruire leur maison parce qu'on ne laisse pas entrer le ciment et ce qui est le béton ou je ne sais quoi. Donc Gaza, c'est très angoissant à terme. Moi, j'aurais voulu y retourner une fois encore avant de mourir, mais je sens que je n'y retournerai pas parce qu'on ne peut pas y aller.
Moi, c'était un combat, je veux dire, non réfléchi, un peu spontané, parce que quand je suis arrivé en septembre 2013 en France, j'ai été beaucoup sollicité par des associations ou des fondations pour les droits de l'homme. Ils voulaient juste que je leur raconte ce que c'était Gaza.
Maison des Métallos, Paris, le 16 janvier 2016.
Je donne tout de suite la parole à Amir Hassan, puisqu'il est effectivement un représentant de cette génération post-Oslo, qui est née et qui a grandi à Gaza. Nous t'écoutons, Amir.
Je suis né en 90, donc c'était encore la première intifada. Je me rappelais toujours de mon enfance parce que j'habitais dans un camp de réfugiés comme tous les réfugiés qui représentent aujourd'hui 75% de la population de Gaza. J'ai vu une violence, ils venaient à la maison de temps en temps et donc on laissait les portes ouvertes pour qu'ils cassent pas la porte. Donc c'était la solution parce que sinon ils cassent la porte à chaque fois. Et je me rappelle d'un jour où donc j'avais 4 ans avant l'arrivée de l'autorité palestinienne où il y a 30 soldats qui entrent à la maison. Mon père n'était pas là parce qu'il travaillait en Israël comme beaucoup
beaucoup de Palestiniens de Gaza. Donc il y avait ma mère qui était terrorisée, il y avait ma sœur et moi. Donc on était, ils nous ont mis contre au mur avec, ils se sont mis en trois lignes. Et on avait une petite maison avec leurs mitraillettes et la maison était tellement petite que les mitraillettes touchaient nos ventres. Et après l'autorité palestinienne arrive, on voit plus les soldats. On entend beaucoup le mot martyr, blessé, mort. On voit souvent les manifs avec des cadavres. C'était notre quotidien. Et tout d'un coup, un jour, c'était en septembre, en 2000, on entend des bombardements. Donc, on pensait que c'était l'hiver, qu'il y a des éclairs, c'est des tempêtes. Et les gens disent, non, c'est des bombardements, c'est des avions qui bombardent. Et je me rappelle, c'était un jour terrible parce que toute la ville est descendue dans la rue. Les gens ne savaient pas quoi faire parce que c'était la première fois qu'on se fait bombarder par les avions militaires. Au début, ils ciblaient beaucoup tout ce qui était administratif, tout ce qui appartenait à l'autorité palestinienne. Et après, ils ont commencé à bombarder des maisons, des gens qu'ils appellent résistants. Et les gens, il y avait une fatalité à Gaza, parce que les gens se disent, par exemple, tu sais, quand tu marches le soir, t'as un risque sur dos d'être tué, parce que le bombardement, c'est souvent le soir. Mais les gens ne pouvaient pas arrêter de vivre. Et la première semaine des bombardements, tous les parents ont retiré leurs enfants de l'école. Mon père, il a dit, moi, je peux pas venir vous retirer, moi, je travaille, donc vous restez à l'école. Et Gaza, c'est très particulier, parce que vous pouvez pas vous échapper. Donc vous êtes obligé de cohabiter avec la mort, avec les bombardements, avec les problèmes. C'était notre vie, on pensait que le monde entier vivait de cette manière. Et 2006, ce qui change, ce qui touche tous les citoyens à Gaza, c'est quand Israël bombarde la centrale d'électricité. Pendant 3 mois, on n'a pas d'électricité. Donc là, on dit, ça devient très dur de vivre sans électricité. Parce que quand vous n'avez pas l'électricité, vous n'avez pas l'eau. Parce que l'eau ne monte pas toute seule dans les appartements. Vous n'avez pas les transports. Vous allez à l'école, il n'y a pas d'éclairage public. Les rues sont noires la nuit. Donc vous ne pouvez rien faire quand il n'y a pas d'électricité. Même vous ne pouvez pas dormir l'été parce qu'il fait très chaud, il fait très humide. Si vous n'avez pas les ventilateurs, vous ne pouvez pas dormir. Donc c'est devenu une vie très, très dur, avec le blocus après la victoire du Hamas aux élections.
Ben moi, le témoignage de ce jeune, ça m'a vraiment énormément touchée et je trouve qu'il faudrait vraiment le diffuser très largement parce que là, le témoignage d'une personne qui a vécu que ça toute sa vie, tout cet emprisonnement, toute cette violence, toute cette folie, et ben là, j'ai trouvé qu'il avait une façon de l'exprimer, qui nous touche directement, qui nous fait comprendre. Et d'un seul coup, j'étais un petit peu là-bas. Et je trouve qu'il a une parole qui est claire, qui est limpide, d'une jeunesse qui ne peut que nous toucher. Voilà. Enfin, en tout cas, j'étais très émue.
Quand on assiste à une conférence pendant 2 heures et on raconte que des drames, que des... C'est lourd, même pour moi, ça me fatigue. Alors, je le fais toujours avec l'humour. Et parce qu'il ne faut surtout pas faire déprimer les gens. Déjà, nous sommes un peuple assez dépressif en France. On est toujours déprimé. Donc, et la dépression n'aide pas à réfléchir sur le sujet. Donc, je voulais dire aux gens, c'est vrai, c'est dramatique, mais que nous avons une responsabilité, au moins dénoncer ce qui se passe.
فاصل نذهب وإياكم للإعلانات التجارية
حملة التسجيل الإلكتروني للانتخابات
عمر طبعا سمعت
لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني الآن على هذه الموجة 102.7
هلا 8 ميجا يعني 4069 كيلو بس الأربع شيكل مش 8 ميجا خليني أفهمك بالتدريج
Une blague. Oui, on dit que quand la voiture Renault 5 est arrivée en Palestine, la boîte de vitesse n'avait que 3 vitesses. C'est parce que si on passait la quatrième, on sortait de la Palestine. Parce que c'est tellement petit. Une autre, c'est sur l'arrivée de l'autorité palestinienne à Gaza. Il y a la France qui accueille des policiers pour les Palestiniens pour les préparer à recevoir Yasser Arafat quand il va descendre de l'avion. Donc ils prennent 6 policiers et leur disent « Voilà, donc quand vous voyez le président sortir, vous tirez dans l'air 12 balles. » Et un policier leur dit « Mais pourquoi ? Puisqu'on peut la voir dès la première. » Nous, on se moque de nous-mêmes, beaucoup. Ouais.
Bon, là où il excelle énormément, c'est quand il raconte des blagues, quoi. Ce qui nous relie, c'est d'avoir des moments de bonheur, d'échange, de convivialité, chaleureux. Et là, on rigole bien. Je m'appelle Catherine Pillet-Bon, parce que j'ai épousé Jean-Marie Bon. Et que... Mes frères seraient pas contents si je disais « Bon, Pilet, c'est moi !» Et ben, je suis retraitée depuis quelques années. J'ai travaillé avant comme médecin, psychiatre, en visite à domicile, sur un secteur de banlieue. Je suis convaincue qu'un jour il sera ambassadeur de son pays, libre. J'appelle mon ambassadeur, mais je dis aussi que j'ai 3 enfants, j'ai une fille. Mais j'ai 2 jeunes dans mon entourage affectif, Amir et Amara, et je les appelle mes fistons. Parce que bon, je crois que ce sont des jeunes hommes qui doivent se débrouiller seuls dans la vie, mais qui ont besoin d'un petit soutien. Alors j'essaye d'être présente, sans être trop maternelle, mais de les aider à grandir et à vivre dans notre capitale et dans notre société où ça devient quand même très très difficile de vivre. Je pense que ça doit être certainement très douloureux aussi pour lui de grandir, parce que bon, toute sa famille est à Gaza et c'est difficile de grandir, de s'autonomiser, de vivre sa vie pour un jeune avec cette coupure quand même brutale avec sa famille. Ben c'est vrai que actuellement, c'est quand même la Palestine, le pays le plus victime d'une colonisation, d'une oppression de façon durable, quoi. Enfin, c'est terrible. Et ce soutien au peuple palestinien, je l'ai depuis longtemps. Enfin, quand à la guerre des 6 jours, j'étais étudiante, et déjà là, ça m'avait énormément mobilisé. Il y a une phrase que j'ai lue récemment d'un Palestinien qui dit « Ici, on vit parce que la mort ne veut pas de nous. » En 2014, au moment de l'année internationale de solidarité avec la Palestine, j'ai eu envie que dans notre ville de Malakoff, il y a quelque chose qui marque la solidarité avec la Palestine. Et il y a eu une collecte qui s'est organisée, les gens donnaient spontanément pour les enfants, enfin, voilà. Et donc, Christian Essel m'a fait rencontrer la Voix de l'Enfant. Et on a trouvé que c'était quand même très très bien que le fruit de la collecte passe par cette association pour aller directement à une association avec qui ils sont en contact à Gaza même pour l'accueil des enfants blessés, traumatisés, le transport des enfants dans les hôpitaux et tout. Et ça a permis comme ça aussi d'établir un lien entre la population de Malakoff et la population de Gaza, et les enfants et l'association directe. Et on espère que ces liens vont se poursuivre, quoi.
Je dirais que nous nous sommes beaucoup appuyés sur la Voix de l'Enfant, qui fait un travail remarquable, d'ailleurs dans 67 pays, dont Israël. Et c'est la Voix de l'Enfant qui organisait nos voyages sur le plan logistique. Il y avait à Gaza à l'époque, en fait à Bethléem, mais avec une succursale à Gaza, cette petite association palestinienne qui s'appelait Enfants, Jeux, Éducation, dont on m'a fait la présidente d'honneur, ce qui ne m'engageait pas à grand-chose, je veux dire. Je pense que ça n'existe plus à Gaza. Ils ont fermé, ils avaient des centres remarquables qui faisaient un travail merveilleux pour ces enfants traumatisés. Ça consistait à s'occuper des enfants en dehors des heures scolaires pour c'était des enfants très, très marqués, très blessés, très traumatisés, et c'était de les apaiser et de les faire jouer. Et à travers le jeu, de faire de l'éducation. C'était ça l'objet de cette petite association. Mais alors, il faut que j'ai des lunettes. Il y en a sur la table, là, je crois. Ici, c'est Gaza. Ici, rien ne vaut le regard d'un enfant qui, avec espoir, observe le ciel, rêvant liberté. Ici, tout se lit dans les yeux des enfants qui portent l'uniforme scolaire.
Leur destin est inscrit sur leur front. Ici, tout est possible car la guerre n'arrête pas la pluie. Les enfants boivent l'eau du ciel que les nuages ont libérée.
Sa poésie, c'est quelque chose. Moi, je pleure hein, quand je lis ses poèmes.
Quand je choisis le français, je l'ai choisi par hasard. Parce que je voulais faire aller à la fac des médias, mais elle était fermée. Et mon père m'a dit, tu vas à la fac, tu m'amènes un certificat de scolarité. Donc, je suis allé au département de français pour avoir le certificat de scolarité. Par hasard, j'ai vu un beau département décoré, très chic, très riche. Et donc, et j'entendais quelqu'un qui parlait une langue étrange. Donc, j'ai tapé à la porte et il m'a dit, oui, je suis resté dehors parce que j'ai pas compris ce que ça voulait dire, oui. Parce qu'on n'a aucune notion de la langue française à Gaza. Je ne savais même pas que c'était du français. Après, une fille est sortie, elle m'a dit, bah, le chef du département vous a dit oui, c'est-à-dire entrer. elle a traduit l'entretien, donc il m'a parlé pendant une heure sur le français et tout, que ça ouvre des portes d'avenir et tout. Et moi, j'ai été attiré, pas par ce qu'il disait, mais par la langue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont d'une beauté, cette langue. C'était la première fois que je l'entends. Quand on ne parle pas français, on est forcément impressionné par la beauté de cette langue. Aujourd'hui, je ne suis plus impressionné parce que je la parle, donc j'entends plus la sonorité comme avant. Mais pour moi, c'était une musique incroyable. Et je lui ai dit, est-ce que si je m'inscris, est-ce que je pourrais un jour parler la langue comme vous? Et il m'a dit, ça dépend de ta volonté et de ta motivation. Et c'était un défi et j'ai été vraiment pris par la culture. Je pense que c'est ça ce qui m'a aidé à réussir dans la langue, parce que j'étais intéressé à la culture à travers les films, les chansons et tout. Et j'écoutais beaucoup Céline Dion, parce que chez nous, il n'y a que Céline Dion qui chante en français.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.
Et j'apprenais les chansons par cœur pour la prononciation et pour me rappeler du sens des lexiques. Et je me rappelle un jour, une chanson m'a sauvé la vie dans un examen, parce qu'on avait dans un texte le mot « rupture ». Et si on ne comprenait pas ce que voulait dire ce mot, on ratait la question. Et donc, il y avait une chanson pour Céline Dion, on entendait ce mot. Et c'est, j'ai pensé à Céline Dion, j'ai réussi la question, j'étais très fier de Céline Dion. je dis merci quand même. Je pense que vraiment la culture, quand on associe la langue à la culture, on l'apprend avec plaisir. Parce que j'ai regardé 5 films par jour. J'ai regardé 1400 films en un an et demi. Donc j'ai absorbé la culture française et l'esprit et tout. Ouais.
J'ai cherché ton âme dans les froids, dans les plats.
Je pense que le premier texte en français, c'était un texte qui s'appelait Être et avoir, sur les deux verbes qui m'ont compliqué la vie, parce que c'était tellement dur de les apprendre, ces verbes. Ah non, j'ai galéré, j'ai mis un an à apprendre ces verbes, je pense, et à les prononcer. Entre ils sont, ils ont, pour moi, ça ne passait pas du tout. Parce qu'on n'a pas le nasal en arabe en plus, donc tout c'était très difficile. Et j'ai écrit quelque chose comme quoi, avec, si on connaît juste deux verbes dans une langue, on peut transmettre des émotions, parce que la langue, c'était les sentiments et pas les lexiques. Et j'ai des mots que je préfère, que j'aime beaucoup dans la langue française. Je disais toujours aux gens que le mot raté, j'aimais beaucoup ce mot, parce qu'à chaque fois qu'il y a le mot raté, il y a une histoire à raconter derrière.
Ici, c'est Gaza. Une ville où les taxis n'ont pas de couleur précise, même les nuages n'ont pas de forme précise. Mais quand ils se mettent d'accord, ils dessinent la carte du pays. Ici, les anciens sont les monuments historiques. Ils sont des phares de savoir et de sagesse, même quand ils bavardent sans cesse. Ils ont toujours raison. Sur leurs visages se lisent de longs chemins d'immigration ou d'exil. Chacun d'entre eux passe son temps à convaincre les autres que sa ville d'origine est la plus belle de Palestine. Ici, les vieilles dames épluchent les pommes de terre devant les portes de leurs maisons, dans les camps.
Alors, je m'appelle Dani Toubiana, je suis metteur en scène, auteur, directrice aussi d'une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Feuille d'Or. On a commencé par faire une lecture des nouvelles Et un jour, j'ai proposé à mes étudiants de Paris 3 de travailler sur l'adaptation. Et ils ont fait des choses, ils ont fait des propositions qui étaient vraiment intéressantes. Et quand j'ai lu le travail, le résultat de ces nouvelles, je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a une matière à théâtre. Et là, j'ai eu envie d'écrire l'adaptation des nouvelles et d'écrire un fil conducteur et par conséquent des textes additionnels pour unifier toutes ces nouvelles. Et donc, une pièce est née de ça, c'est « Et si, chronique de Palestine », sachant que le travail d'écriture en liberté s'appelle « Écho de Palestine », les nouvelles publiées par Écriture en liberté. Et donc là, on a « Et si, chronique de Palestine ». Et quand on a proposé ce travail et quand Amir l'a lu, j'ai été très touchée de sa réaction. Il m'a dit « C'est marrant, mais j'ai l'impression que tu as compris quelque chose de ça. »
On a des problèmes de terre. On a des problèmes de cartes à identité variable. On a des problèmes de traumatisme en tout genre qui nous empêchent de dormir. J'entends plus rien, Salma, j'entends plus rien.
Parce que, en fait, j'ai un regard de l'intérieur. Je peux pas être d'un côté ou de l'autre. Le travail que je fais n'est pas un travail militant. Moi, je suis ni d'un côté, je suis pas pro-israélienne, je suis pas pro-palestinienne. J'essaie de faire mon travail de metteur en scène et d'auteur le mieux possible. Et en conséquence, voilà, ces chroniques de Palestine, c'est un peu un point de vue sur le quotidien de gens. Parce que limiter des gens à un conflit, c'est pas ma vision du monde. Je crois que même dans le conflit, ces gens ont des histoires. Il y a des jeunes qui tombent amoureux. Il y a des mamans qui aiment leurs enfants et qui ont peur pour eux. Et c'est voilà. Et je trouve que le traitement médiatique que l'on fait du conflit israélo-palestinien n'est pas juste. Voilà. Alors je ne prétends pas avoir de la justesse dans les propos que je tiens. Mais j'essaie en tout cas de me dire, de les rendre vivants ces gens-là et leur donner la parole à travers la pièce de théâtre que je vais mettre en scène. Bon, bah, c'est une façon de leur permettre de parler à la première personne, voilà.
Ici c'est Gaza, une ville qui a dû tuer la mort pour survivre. Comprends, c'est exactement ça. Assez vous reprenons. Oui, donc, nous disons des grands murs, un grand mur. Des murs moyens ou un moyen mur. Des petits murs. Grands murs, moyens murs, des petits murs, tout un damier d'espace. Un kaléidoscope de murs avec des moyens murs, des grands murs, des petits murs. Des espaces ainsi séparés, un espace complètement fragmenté avec des grands murs, des moyens murs, des petits murs.
Moi, j'ai eu une expérience avec ma grand-mère qui a été touchée par un missile dans son appartement. Et donc, je suis allé tout de suite la voir. Il ouvre la porte et je vois, d'habitude, je vois un mur derrière elle. Et là, je voyais la rue, je voyais les gens. Et je lui dis, sous le choc, ça va? Il dit, et pourquoi ça n'irait pas?
Tu m'as dit une fois quelque chose qui m'a rempli de surprise. Tu m'as dit, nous à Gaza, on ne se rendait pas compte qu'on était malheureux parce qu'on n'avait rien vu de l'extérieur.
Ça, c'est vrai.
On n'était jamais sortis de chez nous, de sorte qu'on avait une vision tout à fait particulière et enfermée de notre vécu. Il nous était naturel d'une certaine manière. Ça m'a beaucoup surprise, parce que quand on sait comment vivent les Gazaouis, c'est assez intéressant comme regard, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de comparaison possible avec l'extérieur.
Ma mère, qui a aujourd'hui 50 ans, n'est jamais sortie de Gaza, elle a toujours vécu dans le camp de réfugiés à Gaza. C'était sa vie, il faisait ses projets dans Gaza, et l'extérieur, on ne le voyait même pas. Donc comme il n'y avait pas de comparaison, on nous a jamais dit que nous étions pauvres, par exemple. On nous a jamais dit que nous étions occupés, on ne se rendait même pas compte. Pour moi, je dis que quand on s'adresse aux gens, il faut toujours être optimiste. C'est mon métier que je vais enseigner tous les soirs à l'école, même si parfois je n'ai pas le moral. Dès que j'entre dans la classe, je dis j'ai rendez-vous avec l'avenir, je ne peux pas être pessimiste, parce que tant qu'on ne sait pas comment va être l'avenir, on ne peut pas être condamné d'avance. On ne sait pas, peut-être l'avenir va être merveilleux, joyeux, et donc il faut se préparer aussi à ça, à ce que l'avenir soit optimiste. L'énergie vient de parce qu'à chaque fois que j'ai perdu espoir et je me suis dit c'est fini, il y a des choses qui se sont passées qui ont fait en sorte que j'ai tort. Mais par rapport à la Palestine, c'est beaucoup plus difficile d'être optimiste. Moi, je le suis toujours parce qu'aujourd'hui, il suffit que le gouvernement israélien décide de faire la paix, demain, il y aura la paix. La réalité est très noire, c'est une catastrophe. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait vraiment une paix dans cette région. Parce que c'est une décision politique. Ça arrivera un jour parce que je pense que ça ne peut pas durer comme ça.
Je crois que c'est une attitude tout à fait importante parce que je sais que, par exemple, Stéphane était optimiste par volonté politique. C'est-à-dire que d'être pessimiste ne mène nulle part. Et que seul l'optimisme est agissant.
Ici, c'est Gaza. Ici, quand l'après-midi est calme, tu entends les martyrs citer leur nom à côté de toi. Ils te disent « Gaza est belle, mais Gaza est dure ». Ici, la Méditerranée ne relie rien à rien. Elle est juste là pour la beauté du geste.
C'est merveilleux d'avoir des relations avec des jeunes comme toi, parce que c'est, à mon âge, c'est assez rare. On se dit, cette vieille bonne femme, ça doit être assommant de rencontrer une vieille. Moi, je n'aime pas beaucoup les vieux. C'est tout ça qui nous habite, qui habite notre amitié. Voilà. Est-ce que ça va comme conclusion? Ça fait une sortie, ça, non?
J'aimerais bien avoir une carte de séjour pour 10 ans pour que je puisse faire un projet au moins. Et étudier tranquillement, être bénévole dans des associations de la société civile, aider les gens, voilà, penser à d'autres choses que la préfecture et la sécurité sociale. Ça me préoccupe beaucoup, cette histoire. Parce que d'abord, j'ai un passeport que personne ne reconnaît. Le passeport palestinien, il est très, très faible, on va dire. Surtout, aujourd'hui, je ne peux plus rentrer à Gaza, comme les frontières sont fermées. Et je me dis, si ma carte de séjour s'arrête, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais comment je vais faire? Quand on dit aux gens « bonne nuit », on ajoute toujours cette phrase. « Leila sa'ida bukra ahla »« Demain sera meilleur »
C'était « Ici, c'est Gaza » avec Christiane Essel, Amir Hassan, Yann Dimet, Dani Toubiana, Catherine Pilébon. Lecture du texte « Ici, c'est Gaza » d'Amir Hassan, interprété et accompagné à la Darbouka par Shemsi Lot. Remerciements à Céline Autria, Emma Cardone et la Maison des Métallos, Éléonore Merza-Bronstein, cofondatrice du mouvement Decolonizer. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Prise de son, Eric Damaggio. Mixage, Stéphane Desmonts. Un documentaire de Jean-Christophe Fraîche et François Perrache, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.